Avoir.
Se rendre un peu partout. Alléluia. Ça fait du bien de vous voir en face. Amen. Parce qu'on entend des voix, on est le dos tourné, et puis on sait qui loue le Seigneur, et puis il y a des voix qu'on ne connaît pas. Alors je dis gloire à Dieu, ça c'est un nouveau, c'est une nouvelle. Amen. C'est l'œuvre de Dieu qui s'accomplit au fur et à mesure, Dieu avance. Amen. Et il nous permet, nous aussi, d'avancer. Alléluia. Alors, j'aimerais faire une chose ce matin, avant d'ouvrir la parole avec vous, c'est de remercier le bureau, le conseil d'administration qui travaille. Ils travaillent dans l'ombre. Bien sûr, il y a ceux qui font le ménage, on ne les voit pas, mais ils sont sur la liste. Il y a ceux également qui travaillent en extérieur, on ne les voit pas, mais pourtant, quand on arrive, on dit, tiens, l'herbe a été arrachée, ou ça a été coupée, ou ça a été nettoyée. Vous voyez? C'est un service de l'ombre, mais combien c'est formidable que chacun se mette à la tâche. L'Église, c'est un ensemble. Amen. Il y a ceux qui sont en vue, ceux qui chantent, hein, ceux qui prêchent. Il y a ceux qui sont à l'école du dimanche, on les voit, on amène nos enfants, on le dépose et puis on repart. Pensez à prier pour chacun. Amen. C'est important, hein. Alors, j'aimerais dire aussi, nous avons eu la Assemblée générale extraordinaire. Et j'ai apprécié fortement le travail qui est fait par le conseil d'administration. Croyez-moi, ça fait maintenant 27 ans, 28 ans ou 29 ans que je fréquente des églises et que j'en ai dirigé pendant 27 ans. Ils travaillent bien. Gloire à Dieu pour leur investissement, pour leur engagement, pour leur sérieux. Croyez-moi, je peux vous le dire, ils travaillent bien. Et on sent qu'il y a la paix, l'unité, l'harmonie. Amen. C'est important de prier pour eux, parce qu'ils ont une lourde charge, une responsabilité importante. Amen. Est-ce que vous pensez à prier pour votre pasteur? Nous, les pasteurs, nous avons besoin justement de la prière de l'Église. Amen. Je vous fais une confidence. Un jour, je visitais un frère qui a beaucoup évangélisé. Hein, il descendait de Manosque jusqu'à Aix-en-Provence. Il se mettait à la gare, il distribuait des prospectus, des tracts, des appels de la vie, pour ceux qui s'en rappellent. À Manosque également, il se tenait près de la poste. Il y avait également la gare routière. Et il distribuait, il témoignait. Et puis un jour, il m'a dit, donc que j'allais le visiter parce qu'il était malade. Il me dit, frère, je ne peux plus faire ce que je faisais avant. Il avait de l'âge, croyez-moi. Hein. Il avait beaucoup d'âge. Et je lui ai dit, écoutez, monsieur Guermillon, parce que c'est son nom, il me dit, je lui disais, mais vous ne pouvez plus faire ce que vous faisiez auparavant. Allez, colporter la parole de Dieu. Mais vous pouvez encore faire une chose. Ah, il me dit quoi? Il dit, vous pouvez prier pour nous. Déjà, nous, dans nos visites, on a besoin de sentir la prière. Amen. Parce que des situations se débloquent uniquement par la prière. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que responsables d'œuvre, eh bien, on a besoin de sentir la prière de l'Église. Justement parce que les cœurs vont s'ouvrir. Alléluia. C'est très facile de juger, de dire, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est plus difficile de se tenir à genoux et de dire, alors que peut-être on n'est pas d'accord, de dire, Seigneur, écoute, c'est lui le responsable, je te prie pour lui, parce que je veux voir ta gloire. On l'a entendu. Et si on veut voir la gloire de Dieu, ben, il nous faut passer par là, prier les uns pour les autres, parce que c'est ainsi que Dieu se réjouit lorsque nous prions, même si nous ne sommes pas d'accord avec un frère, de prier pour lui. Vous savez, on en parlait avec Emmanuel. Mais en tant que serviteur de Dieu, on ne peut pas avoir de la rancune pour quelqu'un. Ça nous est impossible. Parce que quand on prépare une méditation pour apporter à l'Église, si par exemple j'ai de la rancœur dans le cœur par rapport à quelqu'un, je suis interpellé. Et je ne peux pas aller plus loin. Donc j'ai besoin de me remettre en question. J'ai besoin de demander pardon au Seigneur. Aller demander pardon à la personne, peut-être pour qui j'ai eu quelque chose, quelque rancœur, et de dire, sinon je ne peux pas prêcher. Amen. Je ne peux pas dire aimez-vous les uns les autres si moi je n'aime pas quelqu'un. S'il y a quelqu'un en particulier à qui je... Non, je ne peux pas, je n'ai pas le droit. Je ne peux pas. Amen. Ça, c'est un apprentissage. C'est l'œuvre de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui agit, qui se manifeste en nous. Amen. Ceci dit, ouvrons la parole de Dieu. 1 Samuel, chapitre 30, verset 11. 1 Samuel, chapitre 30, verset 11. Ici, il s'agit de David et de ses hommes. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau, et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et deux masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit : À qui es-tu ? Et d'où es-tu ? Il répondit : Je suis un garçon égyptien, au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérétiens, sur le territoire de Juda et au midi de Caleb, et nous avons brûlé Siklag. David lui dit : Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ? Et il répondit : Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. Il lui servit ainsi de guide. Et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant, dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. Amen. Cet homme malade, cet Égyptien, est un personnage représentatif de beaucoup de personnes. Son origine, ou son pays d'origine, sa nation, c'est l'Égypte. Et l'Égypte est souvent dans la Bible l'image, justement, eh bien, de ce monde, de ce que le monde est. On parle, quand on pense à l'Égypte et à Israël, à l'esclavage du peuple de Dieu, des peuples d'Israël. Et bien sûr, tout homme en est issu de ce pays. David le disait : Je suis né dans le péché, j'ai été enfanté dans l'iniquité. Paul le dit, il n'y a pas juste, pas même un seul, tous sont péchés. Et c'est vrai. Et il le souligne. L'apôtre Paul également, dans une de ses lettres aux Éphésiens, chapitre 2, verset 1er, il dit : Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. Donc on ne peut pas dire qu'il y avait un qui était meilleur que nous. Ou que moi j'étais meilleur que quelqu'un. Donc tous étaient tirés de la boue et du péché. Alors quelle est la condition de cet homme ? Il est prisonnier. Il est esclave d'un Amalécite qu'il a justement abandonné parce que le voilà malade. Il ne sert plus à rien. Alors cette condition, elle décrit fort bien celle de personnes, eh bien, qui sont devenues les esclaves de maîtres qui les ont abandonnés au moment de la difficulté. Ces maîtres, on peut en nommer quelques-uns. Le péché. Le péché était un maître terrible. Vous savez, il commence à nous prendre le bout du doigt, la première phalange, la deuxième, la troisième, la main complète, le bras. Et puis tout y passe. On est complètement englué dans le péché. Il y a les passions auxquelles nous pouvons nous adonner. Elles nous maîtrisent. Excusez-moi, mais elles nous meurtrissent aussi. Elles nous font du mal. Elles nous rendent malheureux. C'est aussi l'ennemi, Satan. Lui, c'était un maître impitoyable. Il était impitoyable envers ceux qui se sont livrés à lui. Il est terrible, mes amis. C'est un homme blessé. C'est le psalmiste qui dira : Je suis malheureux et indigent, dans le psaume 109, verset 22. Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Heureusement que nous ne pouvons pas lire à l'intérieur du cœur des hommes et des femmes que nous rencontrons, auprès desquels quelquefois nous sommes assis, avec lesquels nous parlons, que nous verrions toute la souffrance. Et la souffrance, il y en a ici-bas, croyez-moi. Cet homme est une réelle victime de la vie. Quand je dis de la vie, du malheur également, parce que le malheur est là et puis il nous assaille, il nous envahit, il nous détruit. À ce propos, j'aimerais souligner la différence qui existe entre être victime, amen, se faire passer pour une victime et parfois eh bien, être changé de victime en coupable. Vous en connaissez des situations comme cela ? Peut-être même vous en avez vécu, vous dites c'est injuste. Je suis victime, je ne suis pas coupable. Et puis voilà qu'on me traite comme un coupable. On se méfie de moi. On n'a plus confiance en moi. Vous vous rendez compte que les lanceurs d'alerte, quand il y a quelque chose de grave, le lanceur d'alerte, c'est le plus puni dans l'affaire. Vous vous rendez compte de ça ? Nous sommes dans une société, comme l'apôtre Paul le dit, eh bien, une société où tout est à l'envers. Les temps d'apostasie, il dit. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. C'est la société dans laquelle nous vivons. Parlons de son sauvetage, qui est à l'image, bien sûr, du secours donné en Jésus-Christ. Il est trouvé dans les champs. Et ce texte fait penser un petit peu à Ézéchiel, chapitre 16, verset 5, et après on verra le verset 8 et 9, où il dit « Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. » Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Et Ézéchiel rajoute au verset 8 et 9, « Je passais près de toi, je te regardais, voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur. L'Éternel, et tu fus à moi. » Je te lavais dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi et je t'oignis avec de l'huile. Amen. Le Seigneur nous a vus. Alléluia. Alors que le monde nous avait certainement rejetés, alors que justement le monde qui nous méprise, eh bien, nous avait été prêt à nous achever, excusez-moi le terme, mais c'est cela, par regard de compassion. Mais le Seigneur nous a vus. Il a dit, je passais près de toi. Alléluia. Heureusement que le Seigneur passe auprès de nous. Hein. Il pourrait se comporter comme la société, comme les grands de ce monde. Avoir un regard de mépris. Qu'est-ce qu'on sait des personnes que nous voyons, que nous côtoyons ? Pas parce qu'on a envie de les côtoyer, mais parce qu'ils sont là sur notre passage. Ce que j'appelle les blessés de la vie. Qu'est-ce que nous en savons ? Quelquefois, on est surpris. Une petite histoire, une personne qui, justement, travaillait dans un petit restaurant. Et elle a voyé cette personne qui était sur le trottoir en face. Personne ne l'a regardée, personne ne s'intéressait à elle, c'est un homme. Et puis un jour, elle a décidé d'aller lui donner à manger quelque chose. Parce qu'elle ne supportait plus de le voir comme cela. Elle l'a fait, et puis jour après jour, il l'a fait. Et un jour, cet homme lui a demandé, « Mais pourquoi est-ce que vous vous intéressez à moi ?» Elle lui dit, « Mais je ne peux pas, je ne supporte pas de vous voir comme cela. Personne ne vous regarde. » Et cet homme, quand il lui a ouvert son cœur, qu'il lui a parlé, ça avait été un des plus grands dirigeants d'entreprise. Mais il y a eu des circonstances défavorables. Et il s'est retrouvé comme ça à la rue, sans famille, sans plus rien, rejeté de tous, abandonné de la société dans son ensemble. Voyez un petit peu. Mais est-ce que nous étions comment, nous ? Quand le Seigneur est venu, qu'il nous a vus dans le champ abandonné, qu'il nous a vus sur le bord du fossé, sur le bord de la route, est-ce que nous étions quelqu'un de bien ? Vous savez, vous connaissez votre vie. Même si on dit qu'il faut oublier, c'est vrai, mais il y a des souvenirs quand même de ce qu'on a été capable de faire. Et on se dit, c'était pas très beau. Amen. Heureusement que le Seigneur est passé par là. Croyez pas, hein, parce que je me réjouis. Heureusement que le Seigneur est venu, qu'il m'a lavé, qu'il a fait disparaître toute trace de péché dans ma vie. Heureusement que le Saint-Esprit est descendu sur moi. Alléluia. Combien d'êtres sont ainsi abandonnés comme des misérables dans un champ d'épines ou de cailloux? Alors, à l'exemple de cet homme, esclave, est trouvé par les hommes de David, ils sont trouvés par Dieu. Et demandons au Seigneur, justement, de les trouver. Vous ne voulez pas dans nos prières? Tout à l'heure, on aura un temps de jeûne et prière, de prier pour tous ces individus que nous voyons, que nous apercevons, tous ces malheureux. Et un jour, peut-être qu'il y aura l'opportunité de pouvoir leur parler, de pouvoir les amener jusqu'ici, à l'écoute de l'Évangile. Amen. Alors cet homme, il est trouvé, il est conduit auprès de David. Et David est ici un type de Christ. Nous savons, Jésus est venu pour chercher ceux qui sont perdus. Amen. Ceux qui sont abandonnés parce que cet homme était malade. Il avait été abandonné par son maître. Il n'était plus utile. Dans le combat, il n'aurait servi à rien. Alors, bien sûr, les perdus doivent être conduits à Jésus. Pas à nous. Amen. Mais à Jésus, nous avons une bonne nouvelle à faire connaître. L'Évangile, la parole de Dieu. Amen. Nous avons un témoignage à donner. Mais il faut que le témoignage soit beau, probant, approuvé de Dieu. Alléluia. C'est important de veiller sur sa vie. Alors, il est nourri, il est abreuvé, avant d'être interrogé. On lui donne d'abord du pain et de l'eau. Et cette mesure de sagesse, je crois qu'elle est conforme à l'amour. Amen. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est malade, qui est résigné, qui est au bord du chemin, au bord du gouffre, excusez-moi, eh bien d'être parfait. C'est impossible. Quand ils arrivent au Seigneur, quand nous sommes arrivés au Seigneur, comment étions-nous? Quelquefois, c'est des écorchés vifs qui arrivent. À peine vous les touchez, waouh, ça bondit. Vous sentez de l'électricité dans l'air à leur côté. Quelquefois, c'est des personnes malheureuses qui ne peuvent plus parce qu'elles ont touché le fond. Et là, nous devons demander la sagesse au Seigneur de pouvoir eh bien, prendre patience avec eux. Amen. C'est important, hein, c'est une preuve d'amour. Parce que quand l'homme est trop faible, eh bien, il ne peut pas se nourrir, s'abreuver lui-même. Alors on l'aide. On le prend par la main. Amen. C'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont pris, ils l'ont amené tout simplement à David et puis ils lui ont donné à manger. Je ne sais pas s'ils y ont tendu la cuillère ou la fourchette, mais en tout cas, ils y ont tendu le pain, ils y ont amené pour pouvoir boire. Là, il suffit à la personne de faire quoi? De se laisser faire, de recevoir. Elle ne peut pas donner. Elle n'a rien. Donc, elle ne peut que recevoir. Et ainsi, le Seigneur commence à restaurer. Il commence à désaltérer celui qui est dans le besoin et celui-ci doit simplement recevoir ses grâces. Amen. La parole de Dieu et la chair de Christ sont le pain qui nourrit. Excusez-moi. C'est pas l'heure de l'apéro. Hein. En tout cas, son esprit est comme une eau vive qui rafraîchit, qui étanche la soif. Quel bonheur! Vous n'avez pas vu qu'au contact de Jésus, il y a un dynamisme extraordinaire? Quand on est dans la présence de Dieu, on n'est plus le même, on n'est plus la même. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs, désespérés, s'éloignaient de Jérusalem. Au contact de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait demi-tour. Ils sont remontés à Jérusalem. Il voulait annoncer, il voulait parler, il voulait expliquer que il l'avait rencontré, il est vivant. Amen. À ces éléments, s'ajoutent des fruits secs, une source d'énergie supplémentaire. Il est question de figues. Alléluia. C'est le fruit préféré de mon épouse, la figue. Hein. Alors, le mot employé dans ce texte désigne plutôt un amalgame ou un mélange, si vous voulez, de fruits séchés. Il symbolise quelque part, je dirais, tous les fruits qui résultent de l'œuvre de la croix. Amen. À l'œuvre de la croix, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la croix. Il y a la mort, mais pour donner la vie. Amen. Donc, il y a le sacrifice de Jésus à cause de nos péchés. pour que nos péchés soient enlevés, ôtés de nos vies. Amen. Il y a la manifestation de l'amour de Dieu. Qui aurait donné son fils en sacrifice pour le salut de gens pitoyables? Personne, à part Dieu. Donc il y a la manifestation de son amour. Et Jésus a connu quoi sur la croix? Il a connu le dessèchement, la soif, l'agonie, et tout cela, ça l'a conduit à la mort. À la mort pour nous. Jésus s'est sacrifié afin que moi je puisse vivre. J'ai besoin de reconnaître, eh bien, pour moi, le sacrifice de Jésus. Pour moi, personnellement, oui, il est mort pour l'humanité, mais il est mort d'abord pour Bernard Villa. C'est mon nom et mon prénom. Il est mort pour moi. Oui, il est mort pour toi aussi. Amen. Pour vous aussi. Il est mort pour chacun d'entre nous. Le salut, c'est quelque chose de personnel. D'abord, il est mort à cause de moi. Il faut que je me sente coupable. C'est bien beau de se noyer dans l'univers et de dire c'est universel. Mais il est d'abord mort pour moi. Parce que moi aussi, j'ai participé aux souffrances de Jésus. Il est mort pour mes péchés. Il est mort à cause de moi. Mais aussi, il est ressuscité. Non pas à cause de moi cette fois-ci, quoi qu'on peut le dire, mais surtout pour moi, pour que je sois sauvé, pardonné, que j'arrive tout simplement eh bien, à cette réalité. J'ai péché, je dois demander pardon à Dieu. Je dois accepter le sacrifice de Jésus pour moi-même, pour pouvoir vivre. Amen. Il a même été abandonné. Matthieu raconte que dans ce moment particulier, Jésus va crier d'une voix forte, « Eli, Eli, lama, sabachthani !» C'est-à-dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous voyez, il était abandonné tout seul. Tout seul, il a payé. Et Jésus, notre bien-aimé Sauveur, et celui qui est en mesure de secourir justement ceux qui sont aussi abandonnés, à l'image de cet Égyptien esclave, malade, qu'on a laissé pour rien dans un champ. Amen. Alors il en résulte pour l'homme des fruits de guérison, de pardon, de libération. Je ne suis plus esclave. Quoique si. Moi j'aime bien me revendiquer de l'esclavage de Jésus-Christ. Amen. Tous sont assujettis à un maître, nous dit la parole de Dieu. Alors, à choisir mon maître, je préfère choisir le meilleur. Amen. Et devenir esclave de Jésus. Alléluia. Je vais le suivre, non pas par obligation, parce que le coup va tomber, mais je préfère le suivre parce que son cœur me témoigne de l'amour. Amen. Et ça, ça fait toute la différence. Alléluia. Alors, ça nous rappelle également le fruit de la vigne qui a été vidé de son sang, c'est-à-dire de son jus qui va devenir du vin. Et souvenons-nous de ce que Jésus a dit à ses disciples avant de les quitter. Je prends Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, on en fait tout à l'heure, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, il le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Et puis ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Amen. Vous réalisez le sacrifice de Jésus à la croix quand vous prenez le pain et le vin? S'il n'avait pas été jusqu'au bout de la volonté de son Père, où serions-nous ce matin? Quelle serait notre espérance? N'aurait pas. Mais Jésus a choisi l'obéissance. Par amour. Vous rendez compte, par amour. Le sacrifice, par amour, pour que nous puissions vivre. Alors cet homme est fortifié parce qu'il a absorbé de la nourriture. Il nous dit qu'après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent. C'est au verset 12. Il y a donc un laps de temps qui est nécessaire pour que justement le pain, l'eau et les fruits communiquent de l'énergie au corps. Et je dirais que de même, l'effet de la parole de Dieu se fait après que l'homme, l'individu, a eu un minimum de temps pour l'assimiler et pour la croire, pour la faire sienne. Amen. C'est important. Hein? Alors, il n'avait rien mangé ni bu depuis 3 jours et 3 nuits. Bien sûr, ce délai de 3 jours est symbolique. Hein? Il évoque un temps qui sépare, je dirais, l'instant de la mort de la résurrection. Rappelez-vous de Jonas, il était en train de périr dans ce ventre du poisson. Jésus qui a passé également eh bien, 3 jours et 3 nuits justement dans le séjour des morts. Mais Jésus n'est pas resté, ni sur la croix, cloué, ni dans le tombeau. Il a vaincu. Où est-ce qu'il est aujourd'hui ? Il est où aujourd'hui ? Il est auprès du Père, mais il est où aussi ? Vous vous rendez compte, aujourd'hui, chez Arles, il est avec moi. Il est en moi. Dimanche prochain, je serai à Carpentras. Il sera en moi. Alléluia. Ça veut dire que chaque jour, il est avec nous. On n'est plus seul. Il veille sur nous. Alléluia. Il nous a amenés, nous a conduits vers la résurrection, nous aussi, parce que nous étions morts. Amen. Alors, après avoir communié avec la mort, voilà qui avait commencé à s'emparer de lui, cet homme, maintenant connaît l'aube d'une résurrection par le moyen de ces éléments consommés. Amen. Il vit lui aussi son 3e jour. C'est le prophète Osée qui a annoncé prophétiquement, Osée chapitre 6, verset 2, « Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. » Amen. Est-ce que vous vivez vraiment ? Moi, avant de me convertir, avant de rencontrer Jésus, je survivais. Des fois, on dit sûr, mais on est en dessous. Hein ? C'est pas souvent qu'on est au-dessus. On est souvent sous la pression. On est souvent, justement, en bas, plutôt qu'en haut. Mais nous vivons quand il vient dans nos vies, quand il devient le maître de nos vies, quand nous lui permettons de régner sur nous. Alléluia. Au verset 12, il est dit « Les forces lui revinrent ». Hein, suivant les diverses traductions, nous trouvons des expressions du genre, d'abord à la colombe, j'en ai pris plusieurs, « Il retrouva ses esprits ». Dans la Darby, il est dit « Son esprit lui revint ». Et dans la Nouvelle Bible seconde, « Son souffle lui revint ». Ça veut dire qu'il n'y avait plus rien. Et quelquefois, il n'y a plus chez nous rien. On vit au jour le jour. Il n'y a plus rien, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de dynamisme, il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus de volonté, quelquefois. Vous voyez, au contact de ces choses-là, pour nous, c'est la parole de Dieu, la nourriture que nous donne le Seigneur. Voilà que eh bien, nous retrouvons la vie. Amen. Parce que ces diverses manières de traduire son expérience attirent justement notre attention spirituelle sur un processus de salut qui est en train de commencer chez lui. Amen. La conversion à Dieu est entre autres un aspect de retour de la conscience de l'esprit humain. Alors qu'on n'est plus capable de discerner ce qui est bien, ce qui est mal, voilà qu'on est interpellé, que notre conscience commence à réagir. Vous n'avez pas été surpris en vous approchant de la parole de Dieu ? Un petit mensonge, c'est pas grand-chose. Et puis quand on se convertit, on dit, mais attends, la Bible ne parle pas de petits et de grands mensonges. Elle dit que le mensonge, c'est le péché. Que les menteurs, ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. Oh, pétard. Comprenez ? On commence à prendre conscience, c'est un retour de la conscience vers les réalités spirituelles également qui nous concernent, ou qui concernent Dieu, le péché, la justice, le jugement. Également la grâce qui est offerte. Je suis un pécheur et j'ai été racheté par grâce. Amen. Et oui, c'est ça, hein, par le moyen de la foi en Jésus, j'ai cru. J'ai demandé pardon. Et j'ai dit maintenant, je suis pardonné. Je suis un autre homme. Je ne peux plus vivre comme je vivais avant. Je ne peux plus parler comme je parlais avant. Je ne peux plus avoir les mêmes expressions. Je ne peux plus pratiquer les mêmes choses parce que Dieu les réprouve. Est-ce que vous saisissez ? Amen. J'aborde maintenant, avant de conclure, l'aspect de son salut. Alors, il n'est pas suffisant d'avoir mangé, bu, récupéré quelques forces. Cette sorte de guérison permet également à David de donc au Seigneur d'aller plus loin, je dirais, dans l'investigation, l'approfondissement de son œuvre en lui. Hein. Ce qui a été un sauvetage au commencement va devenir maintenant un salut. Le salut. Il y a des questions qui obligent justement à une réflexion, à une analyse, je dirais, objective sur la situation. Par exemple, quand il va lui dire au verset 13, « À qui es-tu ?» À qui es-tu ? Cette question est importante. Elle doit lui permettre, de, je dirais, ou l'amener à réfléchir à son identité ou à identifier qui est son maître, parce que « À qui es-tu ?» Moi, j'appartiens à Jésus. C'est mon maître. Amen. Et à ce propos, l'apôtre Paul, en son temps, disait aux Romains, chapitre 7, verset 21 jusqu'au verset 24, « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Tiens, voilà un maître. Le mal. « Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Et conclut en disant, verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera de cette mort ?» Et c'est là qu'il va dire « Gloire à Dieu pour Jésus. » Parce que c'est lui qui nous délivre. C'est parce qu'il y a eu la mort sur le bois de la croix. Amen. Et David poursuit en disant « D'où es-tu ?» Et après, « À qui es-tu ? D'où es-tu ?» Et maintenant, cette autre question va l'obliger à se situer, à identifier son origine. Il le peut maintenant. Pourquoi ? Parce que quelque part, il a été éclairé, ses forces lui sont revenues, son esprit est maintenant lucide. Vous voyez, son esprit n'est plus accaparé par certaines choses, mais par d'autres. Alors, c'est la même chose pour nous. Nous savons que nous avons été rachetés par grâce, par le moyen de la foi. Et l'apôtre Pierre précise, 1 Pierre 1,18, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang de l'agneau, par le sacrifice de Jésus. » Et ensuite, de lui-même, il avoue, vous voyez, c'est formidable. Pas besoin de psy, hein. Le grand psy, c'est le Seigneur. Il dit « Je suis un garçon égyptien. » Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérétiens, sur le territoire de Juda, au midi de Caleb. Nous avons brûlé Tiklag, Tiklag. David doit s'en souvenir, hein. Mais pas que lui. Les hommes qui l'ont trouvé dans le champ. Parce que Tiklag a été brûlé. Tout le monde était emmené. Les biens, les enfants, les femmes. Il a fallu aller les chercher, les libérer, les délivrer, les ramener. Donc ça a dû faire tilt, ça. Vous voyez ? Alors, par le biais des questions qui lui sont posées, il doit à la fois confesser sa nature, son état, et en même temps, je dirais, se solidariser justement au péché commis par les autres en disant « Nous, hein, nous avons fait une invasion, etc. » Il avoue qu'il a participé même aux incursions commises et aux exactions commises à Tsiklag. Ça, c'est présent dans l'esprit de David et des autres, hein, parce que David croyait que le peuple allait le lapider. Hein, et ça allait croire que ça était fini pour lui. En tout cas, il est nécessaire pour pouvoir être sauvé, eh bien, que l'on puisse reconnaître la condition dans laquelle on se trouve personnellement, mais également les péchés auxquels nous avons participé, avec et, je dirais, comme les autres. Eh oui, nous savons que ce n'est pas le plus facile, bien sûr, parce que il y a d'abord la peur de la condamnation, du jugement, s'ils savent ce que j'ai fait. Vous avez remarqué que le péché, c'est toujours en gâchette. Que personne ne le sache. D'ailleurs, quand on va commettre quelque chose de mauvais, on regarde. Il n'y a personne. Ah, pibé. Vous avez compris ? Alors, il y a la peur de la condamnation, bien sûr, de l'abandon également, parce que si on sait que j'ai fait ça, plus personne ne va vouloir me fréquenter. Vous comprenez ? C'est ça. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que celui qui a confessé son péché est pardonné. Amen. Ce n'est pas à demi pardonné comme les hommes. Dieu dit, c'est fini, j'efface. Il n'y a plus de dette. Hein? Donc, on échappe à la condamnation. Et celui que le Christ a sauvé ne sera pas livré entre les mains du diable. Pas le croire, ça. Non. Le Seigneur l'a vaincu à la croix. Donc, il ne va pas faire en sorte que nous puissions se retrouver dans ses griffes. Au contraire, il va assurer une protection sur nous. C'est l'apôtre Paul qui dit dans sa lettre aux chrétiens de Rome, Romains chapitre 8, versets 1 et 2, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » En effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Donc le rejet n'est pas à redouter tant qu'il y a fidélité. Et puis s'il y en a qui vous rejettent parce que vous êtes convertis à Jésus, priez pour eux. C'est quelquefois on a peur de cela. Mais la famille va me tourner le dos. Mais tu vas prier pour eux. Le jour où ils ont besoin de Jésus, ils viendront te voir. Parce qu'ils sauront à qui ils ont affaire. Amen. Alors maintenant, c'est une nouvelle destinée qui se présente devant lui. Hein? L'ancien serviteur des Amalécites ne sert plus son ancien camp. Il est sollicité au niveau de sa volonté. David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Et maintenant, le voilà qui sert de guide à David, jusqu'à ceux justement qui sont encore dans une armée qui a été la sienne. Eh oui. Et là, j'aimerais parler de certaines choses. La conversion ne fait pas du disciple un vengeur. Quand je dis vengeur, je peux m'exprimer ainsi. Maintenant, moi, ça, c'est fini. Pour lui, ce qui lui arrive, bien fait pour lui. Vous comprenez? Ah, ça lui apprendra. Ah, il s'est bien moqué de moi quand je me suis converti. Regarde maintenant où il est. Mais non, je vais pleurer avec lui. J'ai besoin. On n'est pas des vengeurs, on n'est pas des exterminateurs, on n'est pas des justiciers cruels, là. Ah, la Bible dit! Et vous lui coupez la tête. Mais oui, on peut être comme cela. Je me souviens que je suis un pécheur acheté par grâce. Je n'étais pas meilleur que lui ou qu'elle. Amen. Alors, au contraire, il guide le Seigneur vers ceux qui ont participé à son passé afin de les amener à leur tour au salut. Hein? C'est dans ce sens que Jésus veut les vaincre, sans qu'ils puissent échapper, bien sûr, à son amour. Pas le fouet, pas la baguette, non, non. Pas le verset qui... Ouf, non, non, non. Il faut qu'ils soient touchés par l'amour de Dieu. C'est ça qui est le plus important. Hein? Comme dit Ézéchiel, Dieu ne veut pas que le méchant périsse, mais qu'il se repente et qu'il vive. Amen. Vous avez vu les Amalécites, ils faisaient la fête suite à leur victoire, là. Ils étaient ensemble dans le camp, là. Alors, que dire de ceux qui festoient aujourd'hui? Mais s'ils ne demandent pas pardon à Dieu, ils vont périr dans leur péché. C'est le châtiment qui les attend. Est-ce que nous sommes conscients que certains auraient pu réagir ainsi? Lui, il ne faut pas lui parler de Jésus. Lui, elle, jamais ils se convertiront. Qu'est-ce que vous en savez? La Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et même Jérémie le dira, choisis la vie, c'est-à-dire choisis le bien. Amen. C'est notre responsabilité individuelle, mais aussi notre responsabilité individuelle en tant qu'enfant de Dieu, c'est de témoigner, c'est de leur parler, c'est de leur faire connaître, c'est d'aller dans le char et de le récupérer, le malheureux. Ne pas le laisser périr comme ça tout seul. Il est malade. Et on est dans un monde malade. Un jour, un collègue pasteur, dans une convention, nous disait « Comment voulez-vous que le monde aille bien ?» Vous mettez un pêcheur avec une pécheresse, ils vous font des petits pêcheurs. Comment voulez-vous que ça aille bien? Heureusement qu'il y a eu le sacrifice de Jésus. Heureusement que Jésus est venu ici-bas. Amen. Heureusement qu'il est venu nous chercher, qu'il a eu pitié de nous. Alors, ayons pitié de ceux qui aujourd'hui sont perdus. Ne les voyons pas comme, excusez-moi, de la racaille. Non, non, pas du tout. Le Seigneur est mort pour eux. Il les aime. Oui, il a de mauvaises réactions, mais pourquoi ? La vie l'a amené là où il en était, où il en est aujourd'hui. Il était bien, peut-être. Peut-être qu'il était comme ça déjà. Mais le Seigneur est capable de changer sa nature, de faire de lui un autre homme, d'elle une autre femme, un enfant de Dieu. Vous ne voulez pas participer ? On se lève ensemble, vous voulez bien ? Après, je laisse la place à Emmanuel tout de suite. Amen. On se lève ? Allez. Seigneur, notre vocation, nous la connaissons. C'est notre appel. Nous sommes sauvés pour servir tes projets. Seigneur, nous étions un petit peu comme cet Égyptien, malade, esclave, malheureux, déraciné de chez lui. Mais tu as eu compassion de nous. Tu nous as ouvert les portes de ton royaume. Tu nous as ouvert les bras. Tu nous as attirés à toi, alors qu'on n'était pas meilleurs. Aujourd'hui, nous sommes ton peuple. Nous sommes tes serviteurs et tes servantes, tous autant que nous sommes. Et nous voulons, Seigneur, c'est notre prière, te demander grâce pour ceux qui se perdent aujourd'hui. Même les plus terribles, tu veux les sauver, Seigneur. Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, en est un exemple. Seigneur, nous voulons te demander grâce pour la population qui nous entoure, pour nos familles, pour nos amis, entre parenthèses, ceux que nous côtoyons, nos collègues de travail, notre voisinage. Seigneur, aide-nous à les amener tout simplement à toucher le ciel, à vivre, Seigneur, auprès de toi. Sois béni, notre Dieu, d'avoir eu compassion de nous, mais la même compassion pour eux, Seigneur. S'il te plaît, te le demandons au nom de Jésus. Amen.